about to. Woo-hoo. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Woo-hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Heidi a dit. Ça, c'est le jingle, en l'occurrence. Hein. Ça,
vous le faites bien.
Hein, c'est super, le jingle.
Bonsoir,
bonsoir Heidi.
Salut.
Ah bah, il faut ouvrir son micro, voilà.
Ah bah, j'ai pas fait.
Bah, quelle autonomie, madame.
Mais c'est que je suis pas d'ici, moi.
Ah, je
me laisse un peu faire.
Hein. Ah bon, bah alors, oui.
Heidi
vous accueille,
qui
alors.
Découvre la Suisse au
non,
quotidien.
Mais c'est quand même pas mal, la Suisse. Hein.
Ouais.
Sans rire. Quand t'es étranger, européen, la Suisse, Fribourg, tout ça, c'est quand même la classe. Moi, ça me fait rêver. Le bon chocolat, les montres, les banques fabuleuses, les réserves de munitions tous les 5 kilomètres, les stations d'essence tous les 500 mètres, c'est calme et puis ça sent le propre, quoi. Mais le truc qui va pas, le grain de sable dans le kebab, c'est les saisons. Le temps, le froid, l'hiver, l'enfer.
Ah bah on vit, hein, on vit là.
Non mais je peux vous en parler, hein, c'est le début de l'automne, je me gêne pas. Enfin, automne. Il y a juste les couleurs qui changent un peu, hein. Mais question température, c'est le jour à la nuit ici, quoi. Ah si, quand même, hein. C'est même pire que ça, c'est innommable. Là, vous allez me dire, mais arrête de faire ta parisienne.
C'est vrai, c'est ce qu'on voulait dire.
Oh
ça
là
suffit, la parigote, là.
On les reconnaît, là. Hein.
T'es pas c'est une bon. Choupette, regarde, t'as des bottes de motard, t'as les tatouages, y a tout
a,
ce qu'il faut.
Elle a pas le look, la parisienne type. Là, hein,
t'es habitué à la jungle de la ville, quand même.
Absolument.
Oui, c'est vrai. Mais dans la jungle, dans la ville, dans la toile d'araignée du métro, peut-être que ça sent moins bon. Peut-être.
Ah bah ça arrive, oui.
Mais au moins il y a du chauffage, oui madame.
On a les nasons tout noirs après.
Et tout le monde le sait, sous la terre, il fait chaud. La preuve, dès que le froid arrive, tous les SDF s'y réfugient. C'est un peu nos oiseaux migrateurs. Hein,
les abris nucléaires, nous.
D'ailleurs, en Suisse, ils sont où, vos SDF, à vous? Vous les cachez?
Ouais.
Vous avez honte, hein?
Ouais.
M'étonne pas. Non mais sans rire, vous vous rendez pas compte, hein. Moi j'ai essayé de m'intégrer en arrivant, j'ai même changé de nom, je m'appelle Heidi pour faire plus local, je me suis dit que j'allais passer inaperçu, anonyme, tranquille quoi. Ben non, pensez-vous, j'ai été repérée la première semaine. J'étais la seule pendant la Bénichon, septembre, hein, donc, qui portait moon boots, doudoune, bonnet péruvien et moufle. Trop froid, je vous le dis, trop froid. Mais franchement, mettez-vous à ma place, nom d'une bonnette de micro, quoi. C'est pas vous qui êtes passé du jour au lendemain d'un appart au 7e étage avec vue sur la tour Eiffel et chauffage au sol, un chalet d'alpage, sans salle de bain, sans toilette, avec un seul fourneau à bois,
ah,
et enceinte jusqu'aux dents.
En plus
Non mais je vous dis, c'était sympa les nausées le matin dans le talus par moins 12 degrés. J'ai adoré me réveiller avec un centimètre de givre sur les fenêtres. J'ai bien profité quand j'allais chercher du bois à la remise avec un mètre de neige par moins 19. Non mais à ce stade, t'as même plus froid, t'as mal quoi.
La jambe, c'est du caillou.
Non mais c'est du vécu. Quand j'ai commandé une pizza, le livreur, déjà il a mis une heure à trouver le chalet. Après, il a pas pu monter le talus avec sa mobilette. Puis ma pizza, elle était congelée. Bon bref, très sympa. Je vous dis, c'est fini moi le temps de la station de métro à 100 mètres. Fini le temps du Momo l'épicier en bas de l'immeuble.
Ouvert.
Jour et nuit. Fini le livreur de pizza en t-shirt sexy. Maintenant, c'est l'automne, paraît-il. Ben moi, j'ai froid, quoi. J'ai la chair de poule. Et puis alors, on espère qu'il va être généreux l'hiver. Parce que, à part donner des noisettes, surtout des glands. Bon, par chez moi, c'est plutôt gland, le style. Ben quand même, c'est les boules. Surtout quand t'es pas un écureuil.
Merci, Heidi. En tout cas, on va te souhaiter un bon voyage parce qu'elle n'a pas fini de découvrir la Suisse. Hein,
ah oui,
apparemment,
oui.
Pour nous faire un petit pointage comme ça, toutes les... Quoi, 2-3 jours, histoire de vivre un petit peu des choses.
Ah, on prend la température en direct. Hein.
Ah bah ouais, là, moins 15, ouais.
En direct, moins
parce
15.
Il faut le savoir, hein, vous ne le savez peut-être pas, mais en ce moment, donc, nous sommes en veste.
Nous sommes en veste.
Nous avons ouvert la fenêtre pour s'immerger dans la vie d'Heidi, pour voir un petit peu ces vies ma vie d'Heidi, en fait, qu'on a essayé de faire.
C'est un peu ça,
et
oui.
Et donc, ouais, il fait quand même pas chaud du tout dans la maison. Hein.
Ça grelotte, ça ouais. Grelotte.
C'était pour vérifier.
Radio FR. Oh, yeah. Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
17.
Radio FR. Jamais 203.
Jamais 203.
Et qui c'est qui arrive pour sa revue de presse? On est tellement content de le voir, de l'entendre de retour. Jérémy Croza.
Ouais, salut les Crozous. Chères auditrices et auditeurs, c'est peut-être la dernière fois que vous entendrez ce cri de guerre sur Radio Fribourg.
Oh non.
Non, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que ce sera la dernière fois de la saison. Et oui, c'est la dernière avant la pause estivale. Et j'ai eu bon chercher, j'ai pas trouvé de célébrité intéressante qui célébrait leur anniversaire aujourd'hui. Tout fout le camp.
Ouais.
Mais nous ne laissons pas abattre les gros ours. Pour cette dernière de la saison, j'ai décidé encore une fois de laisser place à l'info. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes le jeudi 30 juin 2022. On souhaite une bonne fête au Ladislas et au Adolphe. Enfin, pas tous les Adolphe non plus. Une entreprise suédoise a créé un steak végétal au goût de chair humaine. Ah, enfin, hein, il était vraiment temps qu'on l'invente. La communauté vegan cannibale, on sera ravis. Le rappeur américain Machine Gun Kelly s'est teint les cheveux en rose. Et voilà, encore une preuve d'irrespect total envers les chauves. Un accident saisissant a eu lieu samedi dans les Grisons. 71 moutons sont tombés d'une paroi rocheuse d'une dizaine de mètres. 43 sont morts et 28 survivants sont blessés. Nous avons recueilli le témoignage du spécialiste qui a dû recenser les victimes. Une femme de 44 ans a été jugée en France pour abandon volontaire d'animaux domestiques. Elle avait vécu avec 111 chats dans une maison.
Waouh.
Et moi, je comprends pas comment procède la justice. Hein. 111 chats, t'as une condamnation, mais 101 dalmatiens, on en fait un film. Découvrez ces astuces de grand-mère pour perdre du poids très vite. Ah non, désolé, ça c'était pas un article, mais une pub ciblée. En Argovie, pour lutter contre le gaspillage alimentaire, un restaurant a mis en place un principe surprenant qui consiste à amender les clients qui ne finissent pas leur assiette.
Ah ouais, j'ai vu ça.
Mike, l'animateur vedette de Radio Fribourg, aurait déclaré « On préférait qu'il verse une prime à ceux qui finissent leurs assiettes. »
Merci, merci.
À Vigo, en Espagne, il est désormais interdit de faire pipi dans la mer sous peine de recevoir une amende de 750 euros.
Waouh.
Bon, heureusement, on peut toujours faire caca dans l'eau potable. Ouf. À Nyon, un policier qui avait déjà son actif 5 retraits de permis a été reconnu coupable de conduite en état d'ébriété alors qu'il se rendait au travail en retard pour prendre son service. L'accusé aurait répondu « Ils ont rien d'autre à foutre, ces flics !» Un homme qui s'était introduit pour la deuxième fois chez la chanteuse Ariana Grande a repris une ordonnance d'éloignement. C'est beau la justice américaine, hein. Pourquoi changer une méthode qui marche déjà? Merci, c'est la fin de ce journal et tout de suite on retrouve le troisième volet de la saga Magic Mike où cette fois nous retrouvons le célèbre stripteaseur dans un studio de radio. Bonne journée à toutes et à tous.
Tu vas aller faire tous fuir là, Jérémy Croza. Tu vas aller faire tous fuir.
Ah, j'adore.
Excellent. Pour cette dernière revue de presse de la saison signée, en tout cas, Jérémy Croza. Jérémy, on va te voir, on va te revoir sur les scènes tout au long de l'été ou sur les plages, je ne sais pas.
Alors, sur les plages, ouais, non.
Coquillages et crustacés.
Non, sur les scènes cet été, ouais, il y en a, mais là, je ne sais pas du tout. Vont pas regarder dans la région, je ne joue pas, je crois. Dans
ah là là. Mais on te retrouve sur internet, sur ton site, sur les réseaux, évidemment.
Et bien sûr, et sur Tinder. Retrouvez-moi sur Twint aussi.
L'homme qui soigne sa pub social, mieux que quiconque. Jérémy Croza avec nous sur Radio Fribourg. Et plus souvent, je vous le garantis, à la rentrée. Jonathan, pour la suite de Jamais 203, après l'info du 8h30, on va parler musique, Jonathan.
Exactement, hein. Blind test sur les musiques de films.
Une musique signée Cade Bostani, To Lovebird in a Cage, les talents suisses sur Radio Fribourg.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
À l'ombre du baobab, avec Thierry.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, je trouve que c'est un temps à fondu, hein, Thierry.
Oui, vous avez faim, c'est ça, hein.
Non, c'est un temps à fondu.
Ah, c'est un temps, oui, mais du coup, si bah, vous
du
avez...
coup, on a faim aussi.
On a faim, oui, parce que la fondue, ça crée non seulement la bonne humeur, mais ça met en appétit, hein. On a toujours envie d'une fondue, particulièrement par ces temps. Tout ça pour vous dire que dans ce cadre un peu particulier, qui est cette journée consacrée à la formation professionnelle, on va parler de fondue. Pourquoi,
hein? Bah, pourquoi
parce
pas.
Que, bah, pourquoi pas aussi? Parce que demain se tiendra la fondue du siècle en ville de Fribourg. La fondue du siècle qui approche à grands pas. Et pour nous en parler, Muriel Hauser est avec nous. Bonjour Muriel.
Bonjour Thierry.
Présidente de Gastro Fribourg. Et puis Roland Blanc également. Bonjour Roland.
Bonjour.
Président de Gastro Fribourg, ville de Fribourg. Hein, c'est ça. Alors je ne sais pas si c'est une appellation spéciale. Non, c'est ville de Fribourg tout simplement.
Gastro Fribourg ville.
Gastro Fribourg ville. Gastro Fribourg Muriel qui fête cette année ses 125 ans. Donc c'est vraiment une année très particulière aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, non tout au long de l'année. Mais aujourd'hui c'est un jour particulier puisqu'on va parler de la fondue du siècle. Mais c'est vrai que c'est une année où vous avez mis pas mal de choses sur pied pour promouvoir aussi vos métiers et puis les restaurateurs qui font partie de Gastro Fribourg.
Oui, tout à fait. Et on a voulu, dans le cadre du 125e, un peu inverser les rôles, c'est-à-dire que plutôt que le client vienne chez nous, c'est nous nous déplacer, aller vers lui et tous les événements qu'on a organisés sur cette année sont réinvités un petit peu dans ce but. C'est de remercier notre clientèle qui toute l'année vient chez nous.
D'accord, donc demain vous allez leur offrir sur le territoire de la ville de Fribourg une fondue extraordinaire, gigantesque.
2400 places seront dressées dans les rues de la ville de Fribourg, de la rue de Romont, rue de Lausanne, place Piton, place Hôtel de Ville, c'est-à-dire des bancs et des tables de cantine. Il y aura 600 caquelons où les gens devront faire eux-mêmes leur fondue. Nous leur offrons une eau minérale. Par contre, s'ils veulent consommer d'autres boissons alcoolisées ou même un thé, ils devront aller se servir chez nos restaurants partenaires, tous nos membres qui ont joué le jeu. Et là, ils devront malheureusement quand même sortir leur petit porte-monnaie, mais autrement, ils peuvent très bien venir s'asseoir à table et déguster la fondue et boire la bouteille d'eau minérale qu'on leur a offert. Et cette fondue est destinée à tout un chacun, aux étudiants, aux retraités, aux familles. Le but, c'est de faire un événement convivial, festif. Il y aura de la musique dans la rue, il y aura cours des Alpes, accordéon, consorts.
Donc, une véritable grande fête hein, dans l'ensemble de la rue, comme on le disait, des rues, hein, parce que c'est vrai que c'est assez lent finalement. Vous avez quand même fait attention, enfin Roland voulait rajouter quelque chose, mais vous avez fait attention aussi de ne pas totalement bloquer la circulation pour que ça reste aussi une ville qui continue à vivre.
Non, effectivement, la première idée qu'on avait, c'était effectivement la plus longue fondue, mais ça impliquait de bloquer passablement la circulation en ville de Fribourg, ce qui ne fait pas vraiment partie de notre politique. Donc quand on est arrivé sur ce projet-là, finalement, voilà, projet qui a demandé pas mal de mois de préparation. Et comme en fait, c'était un peu trop facile. On nous a apporté la pluie pour nous mettre une petite difficulté en plus.
Mais bien sûr.
Mais on assume, on va faire que ça se passe bien, que ce soit une vraie fête.
Oui, alors qu'on soit clair, hein, quel que soit le temps, la fondue aura lieu.
Absolument.
Et la fondue est un mets qui se mange aussi lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait pas très chaud, forcément, pas très beau.
Voilà.
Tous les temps. Hein.
Tout à fait. Et on va. Les gens pourront s'asseoir à mesure que les tables seront mises. Donc, il y aura des secteurs où les tables seront mises plus vite, c'est-à-dire place Hôtel de Ville ou place Piton, Albertinum. Et déjà boire l'apéritif en attendant de consommer cette fondue. Le fromage ne sera pas distribué avant midi moins quart, midi. Et nous allons distribuer des pèlerines en cas de pluie légère.
Non, c'est une fine pluie.
Voilà.
Donc, pas du tout désagréable.
Nous avons distribué des pèlerines et nous invitons les gens à venir avec le parapluie. Et puis, il y en a un qui tiendra le parapluie tout en mangeant sa fondue pour protéger le caquelon. Voilà.
Ben voilà, c'est aussi simple que ça.
Il y a dansons sous la pluie. Maintenant, il y a mangeons la fondue sous la pluie. Mais vous verrez, le soleil sera présent. En
Exactement.
Tout cas, il sera dans nos cœurs, et c'est ça l'important.
Il y a un aspect quand même, parce que Muriel en a déjà parlé, hein, c'est finalement remercier aussi votre clientèle fidèle tout au long de l'année, c'est ce facteur émotionnel qu'on lie beaucoup à la cuisine, au métier de bouche, à tout ce que vous faites au quotidien, et ça c'est un aspect quand même assez fort que vous avez essayé de mettre en avant tout au long de cette année consacrée aux 125 ans de Gastro Fribourg.
Bah c'est effectivement important parce que c'est vrai que les cafés, les restaurants, c'est un lien, c'est un lieu de rencontre, ça l'a toujours été, ça continuera à l'être. Et donc c'est vrai que les gens se retrouvent au bistrot, se retrouvent au restaurant. Et ben pour une fois, c'est nous qui allons retrouver les gens dans la rue et puis qui les invitons dans la rue à cette fête conviviale, ces retrouvailles où en fait les gens vont se retrouver entre eux, vont pouvoir manger, boire, discuter, etc. Même s'il fait un peu gris.
Mais ça, on a déjà oublié.
Voilà.
Oui, tout
ça, on a déjà oublié.
Ah, on va déjà...
Et ce qui est magnifique, c'est qu'il y aura à peu près 200 personnes qui vont œuvrer demain pour cette journée. Et il y a autant des collègues restaurateurs qui se sont présentés pour travailler que des collaborateurs de restaurateurs, que des apprentis, mais des clients aussi qui ont dit « Oh, moi, je veux venir travailler ». Donc, on a toute une panel de personnes qui vont œuvrer demain avec le sourire et qui seront là pour vous accueillir. On a aussi les collectionneurs de Genève qui vient, qui se déplacent pour présenter aussi nos métiers, nous montrer. Et nous avons aussi des coachs fondus qui seront là pour aider.
Wow.
Voilà, nous avons inventé ça. Voilà, les Brière et Vacherin vont venir avec leurs coachs et pour nommer Crémaux qui nous ont la fondue. Pour aider toute personne qui ne saurait pas brasser sa fondue et pour taper sur les doigts de la personne qui pourrait fauter.
Exact. Ben c'est bien, parce que c'est vrai que des fois, les gens redoutent un peu de rater une fondue, mais on ne les rate plus beaucoup de nos jours, d'une part, hein, et d'autre part, c'est vrai qu'il y a toujours ces fameux coachs hein, ben, qui sont là pour vous aider aussi.
Voilà, qui sont là pour apporter le petit coup de pouce nécessaire pour la réussir parfaitement.
Bien, ça va être une très très belle fête aussi. Alors, l'investissement de tout un chacun, c'est déjà aussi un signe extrêmement positif. On voit que ça fonctionne, comme vous le disiez tout à l'heure. Même les clients aussi sont partie prenante, ont envie de donner un petit coup de main. C'est pas toujours évident de trouver des bénévoles, mais là, manifestement, lorsqu'il s'agit d'une fête comme celle-là, il y a... Les gens répondent présent en principe.
Ah oui, et puis mais même nos collègues restaurateurs, on a eu un petit peu l'anxiété en disant, attendez, on va leur faire concurrence en ville de Fribourg un jour à midi. Et quand on était les trouver pour leur dire, est-ce que vous êtes d'accord de participer en vendant vos boissons à l'emporter, tout le monde dit, mais c'est génial ce que vous faites. Et c'est là qu'on voit qu'on est quand même un métier où on est des collègues et pas forcément seulement des concurrents. Mmh.
C'est vrai que vous discutez beaucoup entre vous, vous échangez finalement parce que ce sont des métiers difficiles. Donc, et le cercle d'amis se retrouve souvent aussi au sein des professions ou de la profession.
Oui, tout à fait. On a besoin de partager justement. Hein. Dans la difficulté, il faut partager. Et on a un métier qui n'est pas forcément facile tous les jours. Et puis, de s'entraider, de discuter, de partager, c'est important.
Mais par contre, dans ce monde dans lequel on vit, globalisé, numérisé, digitalisé, robotisé, les restaurateurs ont un énorme rôle à jouer sur le plan social aussi, Roland.
Tout à fait. Ça permet de revenir un peu aux sources et puis de remettre l'humain au centre des questions et de la problématique. Et du coup, on recrée le côté convivial. Je crois qu'il faut surtout pas l'oublier parce que Twitter et Facebook c'est très bien, mais
il y a un certain nombre de limites aussi.
Voilà, mais ça nourrit pas son âme.
Sur le plan émotionnel.
Gastro Fribourg s'est mis sur les réseaux sociaux dans le cadre de son 25e anniversaire. Mais voilà, à contrario, on descend dans la rue aussi pour ne pas oublier que le plus important, c'est le live.
C'est de partager. Voilà. C'est de partager. Hein, c'est ce que vous faites tout au long de l'année. Donc demain, grande fondue, la fondue du siècle pour le 125e anniversaire de Gastro Fribourg. Les fondues seront servies à partir de midi moins quart, midi, suivant les endroits. On démarre à la rue de Romans et jusqu'à l'hôtel de ville, même plus loin encore, hein, Muriel. Il suffit finalement de se déambuler dans ces rues-là. On verra tout de suite, bien sûr, qu'il se passe quelque chose. Si vous avez envie de prendre l'apéro, vous pouvez le faire un peu avant.
Oui,
en allant vers les restaurateurs qui vous serviront et qui sont partenaires aussi de cette grande fondue. Voilà, je crois qu'on a tout dit, Muriel, à peu de choses près.
Si ce n'est qu'on vous attend, quel que soit le temps,
vous serez là, tout le monde sera là.
Avec le sourire.
Et juste avant de se quitter, un petit mot, puisqu'on va revenir maintenant à la formation professionnelle et à cette journée particulière sur les métiers de bouche, justement, tous les métiers qui font partie de votre quotidien. Est-ce que ce sont des métiers qui aujourd'hui sont attractifs? Est-ce que vous trouvez facilement des apprentis? Comment est-ce que ça se passe dans votre profession, Muriel?
Le métier de restaurateur, de cuisinier, de sommelier, je pense que c'est un petit peu, comme certains métiers, une vocation. Donc, c'est des métiers de passion. Donc c'est sûr que c'est plus difficile de trouver des apprentis que sur d'autres métiers qui sont peut-être, qui demandent moins d'investissement. Mmh. Mais nous essayons de motiver nos patrons déjà formés à faire aimer nos métiers. Et ensuite, c'est sûr que sans formation, nous n'avons pas de personnel qualifié. Donc, c'est très important de mettre en avant la formation dans nos métiers.
Absolument, et on le voit, le personnel qualifié est important aussi pour la convivialité, pour le service aux gens.
Tout à fait, je crois que le professionnalisme, c'est le maître mot dans ce métier, comme dans tous les autres. Mais effectivement, il faut des vrais professionnels pour l'accueil, pour la cuisine. C'est pas seulement la cuisine, c'est aussi l'accueil, c'est aussi le service aux clients. Mais c'est des métiers passion. On forme des apprentis, il faut les garder et il faut qu'ils continuent dans cette voie.
Absolument. Le message a passé, on l'espère en tout cas. Eh ben, bonne fête demain.
Hein, merci.
Bonne fondue
merci.
Du siècle.
On se dit déjà bon appétit.
Bon appétit. Et puis on se quitte, c'est un petit clin d'œil. Alors rigolo, hein, c'est super Trump, it's raining again. Mais même s'il pleut, la fondue est toujours présente. Bien sûr, elle crée la bonne humeur.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Alors, on essaie d'appeler qui ? Est-ce qu'on a un prénom éventuellement ?
Alors, nous avons Bononao.
Fanny, tu démarres, ça c'est le tu suis. Hein.
Vous êtes deux.
Bononao.
Moi, je rame, hein, ok ?
Ah, t'inquiète pas, je vais te rattraper.
Allô ?
Allô, ya ? Que t'es là ? Was mach am Valentinstag ?
Ah, bonsoir Radio Fribourg. Hey.
On parle
si mal que ça, c'est comme ça qu'on nous reconnaît.
Ah oui, là, on est
grillé d'entrée. Je m'étais tellement préparé run en plus.
Heidi, elle s'est concentrée run.
À mort. Bono Ao, c'est toi ?
C'est moi, oui.
C'est toi. Et comment
Bono Ao, quel joli prénom.
N'est-ce pas ?
C'est originaire d'où ?
Pardon ?
C'est originaire d'où ?
De Placelbe.
De Placelbe.
Ah, ça sonnait plus exotique.
On se disait
Brésil.
Ouais, Brésil.
Pas Placelbe.
Vous connaissez Placelbe ?
Oui, bien sûr.
C'est joli, hein, c'est climat tropical.
Ah
ouais, ouais, on voit
c'est
ça.
C'est pour
ouais.
ça que Bono Ao, Placelbe, oui, c'est
avec
vrai.
Avec sa petite chapelle ardente.
Ouais.
Bon, bah, tu sais, Bono Ao, il y a deux filles là qui aimeraient vraiment te faire une déclaration d'amour,
mais qui ne sont pas suisse-allemandes.
Est-ce que tu es prête à les écouter ?
Oui, oui.
Bono Ao. Allez, on y va. Bono Ao, c'est ça ?
Ouais.
Bonobo.
Bonobo.
Bon, ah, Bonobo. Ah ouais, Bonon. Là c'est déjà plus Placelbe, ça c'est sûr.
Ouais, d'accord.
Oh.
Alors Cécile, la suisse allemande, go. Allô, Bono Ao. Was machst du ? Allô ?
Oui, oui, j'entends.
Tu m'entends ? Ah ben d'accord.
Alors réponds.
Schweizerdeutsch.
Vas-y, vas-y Fanny, moi je te suis.
Attends, non mais alors, allô, Schatzerli, du bist meine Fladermus. J'ai l'impression de l'insulter quand je dis ce mot, c'est terrible. Was machst du am Valentinstag ?
Là, il faut que je réponde.
Ouais. Ja, gerne. Mit Freunde. Mit viele Freunde.
Nein, nein. Gott rangucke.
Gott
rangucke. Du bist romantisch.
Ah oui, ça, c'est méga romantique, alors. Hein.
Bien, oder?
Gott rangucke.
Oh là là. Ah oui, donc là, ça casse le romantisme.
Alors, autant on a les genoux qui poutent, les genoux qui relutent, les tout machin mignon tout chou. Mais alors, couche, genoux qui poutent, très gros terron, gacon, chamadelung, fladamous. C'est un tue l'amour.
On est parti comme ça.
Et
après, c'était vraiment.
Ouais, c'est vraiment ça.
Ça s'est arrêté là, quoi.
Toi,
Bonobo, tu es célibataire ?
Non, pas du tout, alors.
Ah, comment ça ?
Non, non, je suis un homme soumis.
Carrément ?
Ouais, ouais,
qu'est-ce qu'elle te fait, ta femme ?
Viens nous voir, on va te parler.
C'est la cata.
C'est la cata, à ce point-là ?
Ouais, ouais, ouais.
Dis-lui qu'elle passe chez nous. Non, sérieux.
C'est pour ça qu'il va coquer Gauthieron.
Ouais, c'est pour ça qu'il va coquer Gauthieron, je crois aussi. Hein. Vraiment. Non, qu'est-ce qu'elle te fait, ta pauvre chérie ?
Non, elle est très dure avec moi.
Elle est dure avec toi ?
Ouais, ouais.
Tu voudrais lui faire passer un message ?
Oui.
Oui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ?
Alors, j'aimerais lui dire que ça me fait vachement plaisir quand c'est elle qui cuisine.
Attends, attends, Bonobo. Pour faire une vraie déclaration d'amour, il faut une musique d'amour derrière. Oui. On est d'accord. Il faut un truc qui soit hyper romantique. Alors,
par exemple,
mettre une petite musique d'amour à ta façon, d'accord ?
Attention.
Écoute. Voilà. Là, tu peux faire ta déclaration.
Non, il
n'y
a pas une autre musique.
Ouais, bon, on va ça alors.
Ouais, on a Gauthieron.
On a ça. Autrement, bah,
on peut. Il n'y a pas seulement la Saint-Valentin pour dire que je t'aime.
C'est vrai, c'est tout à fait vrai.
Ça, c'est toute l'année, bien sûr.
Ça, c'est très bien. Bravo, Bonobo de Placelbe. On te félicite. Allez, Fanny, une mini-chanson d'une minute. Tu as ça ?
Oh non.
Mais tu vas le faire.
Mais oui.
Bien sûr.
Alors, tu fais une demi-chanson.
Salut, Bonobo.
Bonne soirée.
Bonobo, salut. Je suis le reine de la provoque. Je fume du shit at 6 o'clock. Pas besoin de café pour me réveiller. Une ligne après l'autre. Je sniff et je me vautre. Dans mon canapé doré où je passe toute ma journée. I'm so chic. I'm so perfect. I'm never sick. That's why I'm so magic. I'm so chic. I'm so perfect, I'm never sick. That's why I'm so magic. Je suis le reine de la provoque. Je mange du caviar sous ma hotte. À la petite cuillère du déjeuner jusqu'au dessert. Je suis le reine de la provoque. J'ai des chaussures en peau de phoque. Et je me déplace en carrosse tiré par des rhinocéros. I'm so chic. I'm so perfect. I'm never sick. That's why I'm so fantastic. I'm so chic. I'm so perfect. I'm never sick. That's why I'm so magic.
Fanny Dyrson à l'instant sur Radio Fribourg. Vous pouvez l'entendre également sur son MySpace, en concert un petit peu partout en Suisse, on espère.
Radio
FR, Radio FR,
Radio FR.
Radio Fribourg.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
C'est l'heure de notre arrêt télé. On a regardé Quotidien sur TMC pour faire connaissance avec cette émission américaine du Bachelor version senior où on a des problèmes de gaz, évidemment.
Une candidate qui a mangé de la glace lors d'une activité alors qu'elle est intolérante au lactose est tombée malade et le confessionnal s'en souvient.
Hold on a second. You were saying?
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Le Fribourg,
c'est une autre histoire.
Chaque mardi, c'est une autre histoire qu'on vous raconte sur Radio Fribourg. Aujourd'hui, ce sera l'histoire de l'Autriche-Hongrie, hein, cet empire dont on fête l'anniversaire cette semaine. On vous évoquera également la naissance du macartisme. Ça nous ramènera aux États-Unis dans les années 1950. Quelques mots du traité de Maastricht qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Alain-Jacques Tornard, bonjour.
Bonjour, Mike.
Comment va l'historien de Radio Fribourg aujourd'hui?
On est en pleine forme, c'est bientôt le printemps, Mike.
On rappelle que vous êtes l'auteur de la Révolution française pour les nuls, parue aux éditions First, et vous avez quand même suivi les 70 ans de règne d'Elisabeth de Dimanche. Vous étiez obligé, j'imagine.
Ben, hein. Je suis obligé d'un point de vue familial, parce que ma compagne, elle est quand même écossaise d'origine.
C'est juste.
Et donc ses enfants, quelque part aussi, du clan des Fraser, donc leur souveraine, c'est la reine Elisabeth.
Alors, 70 ans de règne, c'est pas commun, ça.
Hein. Oui. Alors, ce que je remarque, c'est que en fait, mes enfants, enfin comme beaucoup de Britanniques, pendant plus d'un siècle depuis qu'elle règne, puisqu'elle règne depuis 1952, n'auront, enfin, elle était jeune, hein, mais je veux dire maintenant, ça veut dire ceux de cette génération qui vient n'auront connu que des vieux souverains. Parce que bon, elle est âgée quand même depuis un certain temps, hein, depuis une vingtaine d'années. En tout cas, on peut dire qu'elle fait partie des seniors. Et puis son fils, ouais, il a plus de 70 ans. Donc quand il va régner, quoi qu'il arrive, ça sera vers les 75 ans dans le meilleur des cas. Et puis donc lui, s'il règne aussi, vu la longévité, c'est quand même une famille qui a des bons oui. gènes. Hein, donc
pourtant, on dit souvent qu'il y a eu de la consanguinité dans les familles royales et que la consanguinité peut mener à des tard,
oui, mais
pas toujours. Hein.
Mais ils sont quand même diversifiés ouais. par. On voit d'ailleurs, hein, quand on voit la généalogie, c'est pas pour rien qu'ils sont liés en effet à toutes les familles.
Contrairement aux Romanov qui ont eu des gros problèmes de santé à la fin de la dynastie. Hein.
Et exactement, là, c'est pas. Quoique l'hémophilie du fils de Nicolas II venait de Victoria. Hein.
Ah,
ça, attention, il ne faut pas l'oublier. Mais en fait, c'est vrai que son propre fils, je crois qu'il arrive maintenant, il a la quarantaine, donc lui-même quand il va régner sera aussi un seigneur et quasiment ainsi de suite, donc on peut penser que durant tout le 21e siècle les Britanniques n'auront que de vieux souverains, de vieux souveraines. Quoique je me méfie un peu pour Charles, parce qu'il porte un prénom qui n'est pas très bon au point de vue historique. Hein. Charles Ier a été décapité,
ouais.
Faut pas l'oublier, il a anticipé sur Louis XVI et puis Charles II a été déposé, donc je sais pas ce qui va arriver à Charles III, je veux pas faire d'anticipation.
Ne parlez pas de malheur.
Le pauvre. Mais bon, on parle de cet anniversaire, mais en fait, c'est pas un bel anniversaire pour elle, parce qu'elle avait.
C'était la mort de son père qu'elle adorait.
C'est pour ça qu'elle
hein.
n'a pas. C'est pas ça qu'elle.
Cet été qu'il y aura le vrai jubilé qui sera célébré.
Elle veut pas commémorer ça, parce que quand elle a appris cette nouvelle, elle était au Kenya. Mmh. Elle avait une grande affection pour son père, George VI. Donc,
voilà pourquoi elle n'a pas fait d'apparition publique dimanche. Hein.
C'est pour ça qu'elle était dans le château où son père est mort, justement. Donc
cet été, c'est vraiment au mois de juin qu'il y aura les vraies commémorations. Il y aura 4 jours de liesse incroyable pour les 70 ans de couronnement hein, d'Elisabeth II.
Pour tous ceux qui ont eu la télé à cette époque, un grand moment, puisque c'était les tout débuts de la télévision en Suisse.
Ouais.
Et les gens ont été encouragés à acquérir des postes, les gens s'agglutinaient autour des vitres, des vitrines, des magasins d'électroménager.
Première manifestation retransmise en Eurovision. C'est la première fois qu'on entendait ce terme. À 70 ans de règne pour Elisabeth II, on va se souvenir de la naissance, un 8 février 1867, la naissance de l'Autriche-Hongrie, un empire qu'on peut qualifier de bicéphale. On en parle dans quelques instants avec Alain-Jacques Tournard, juste après Kim Carnes et Bette Davis Eyes sur Radio Fribourg.
C'est une autre histoire.
Je doute que durant les fêtes de fin d'année, vous êtes tombé sur une énième rediffusion de Sissi, la série de films avec la belle Romy Schneider. Peut-être même que vous avez approfondi le sujet avec Sissi, la série cette fois, proposée notamment par TF1. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces reflets à l'écran de la vie de l'impératrice Elisabeth, il faut reconnaître que le contexte historique est tout simplement fascinant. Nous sommes en effet dans ce qui était alors l'Empire austro-hongrois, une entité bicéphale qui a vu le jour il y a 155 ans jour pour jour. Et Sissi, justement, Alain-Jacques Tournard, était impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. Hein.
Oui, d'ailleurs, on le voit bien dans le film Sissi, tout simplement. À un moment donné, on voit cet aspect, comment naît l'Autriche-Hongrie. Une idée étonnante à l'époque des nationalismes, une double monarchie, une sorte de Europe centrale unie. Alors, je dirais presque apparemment. Alors, en fait, il faut un petit peu revenir en arrière. Vous savez que les Habsbourg, c'est quand même qu'une famille venant à l'origine d'un petit endroit de l'actuel canton d'Argovie, je le rappelle toujours avec un peu en étant un peu taquin, et qui a réussi quand même à s'imposer en effet sur l'Europe centrale. Et à l'issue de la tourmente napoléonienne, la famille de Habsbourg recueille enfin les fruits de 6 siècles d'efforts. Elle se constitue un véritable empire au cœur de l'Europe, une construction multinationale improbable et qui doit faire face aux états-nations, la Prusse qui est en train de naître. S'ensuit une tentative de confédération. Cette Autriche-Hongrie qui va durer en fait un demi-siècle. Alors en fait, ça vient en 1806, c'est la fin du Saint-Empire romain germanique. Ah oui. Vous savez, ça c'est une ces questions, je dis toujours, qu'on devrait poser lors des jeux télévisés. Comment François Ier peut succéder à François II ? Parce que François II était empereur du Saint-Empire romain germanique. Quand l'Empire cesse, eh bien, il devient François Ier d'Autriche.
Vous êtes en train de donner des migraines aux candidats de questions pour un champion, là.
Exactement. Alors, le gros problème, c'est que cet empire va naître sur une immense défaite. On a évoqué il y a quelques semaines la raclée phénoménale que les Français ont pris en 1870-71 face aux Prussiens. Mais avant, il y a eu déjà un précédent, c'est Sadova. Alors, quand vous dites aux Autrichiens Sadova, je peux vous dire que ça veut dire quelque chose. C'est comme si on dit aux Français Waterloo, quoi. Ouais. Parce que là, ils ont déjà au XVIIIe siècle, ils avaient perdu la Silésie face à la Prusse. Mais là, maintenant, c'est la fin de l'hégémonie de l'Autriche sur l'Europe centrale, et elle devient une puissance secondaire, mais disons que c'est la Prusse et donc l'Allemagne avec son empereur qui va faire la différence, et l'Autriche-Hongrie ne comptera plus aussi bien autant qu'avant. Et c'est ça le problème, c'est que les Hongrois, qui ont une très forte personnalité, et eux réussissent à imposer le fait que l'empereur deviendra empereur et roi de Hongrie. Donc on crée une double monarchie, la Translétanie et la Cislétanie, c'est-à-dire c'est une petite rivière comme on dit, Rhin ou Outre-Rhin, mais en tout petit. Et donc, on regroupe des États dominés par les germaniques d'un côté et par les Hongrois de l'autre, mais qui sont remplis de part et d'autre de Slaves, même d'Italiens, hein, puisque
c'est très hétéroclite.
Oui, on va jusque la Méditerranée. Il y avait une marine autrichienne à l'époque, une marine hongroise. D'ailleurs, un des chefs d'État du XXe siècle s'appellera Horthy, amiral Horthy. On a du mal à imaginer la Hongrie avec une marine, mais tel est le cas. Et ça a été assez terrible cette époque, parce que tout simplement, cette Autriche-Hongrie était incapable de se véritablement modifier, se transformer. Ils avaient une chance inouïe, c'était de devenir un vrai empire multinational. Mais ils n'ont pas fait la place aux Slaves. Or, quand on voit par exemple les Tchèques avec Prague, cette ville magnifique, Prague, vous voyez, qui a donné les grands compositeurs, les grands peintres, il y avait Klimt, il y avait Mahler, tout ça. Et on n'a pas réussi à en faire un État multiethnique. Et bien entendu, on aboutit à une impasse complète.
Voilà, parce que ça s'est terminé en 1918 déjà.
Mais oui, oui, déjà, on peut dire même en 1914, parce
avec
que
la guerre.
Les Autrichiens ont été entraînés dans cette guerre qui ne servait que les intérêts de la Prusse, donc de l'Allemagne. Et d'ailleurs, c'est très bien montré. Robert Musil a écrit L'homme sans qualité, un magnifique livre qui raconte ce qui devait être le jubilé. On parlait tout à l'heure de la reine Elisabeth, ça devait être le jubilé de l'empereur, mais en fait, il n'arrivera jamais puisqu'il meurt en 1916. Nous le savons avant le début de l'histoire, donc c'est dérisoire. Mais c'est dérisoire comme l'est l'Autriche. Malheureusement, à ce moment-là, elle va s'écrouler. Et c'est un drame pour l'Europe tout entière, parce que l'Europe n'a pas été préparée au démantèlement de l'Autriche, qui s'est fait dans des conditions assez apocalyptiques et qui a entraîné la création la création, par exemple, de la Yougoslavie, qui s'est écroulée après. Et on voit naître comment d'ailleurs une partie de l'Ukraine faisait partie de cet empire d'Autriche, d'où les problèmes actuels que nous avons entre une partie de l'Ukraine très occidentalisée parce qu'elle avait appartenu à l'Autriche et le reste de l'Ukraine qui appartenait à la Russie. Vous voyez, l'actualité nous rattrape.
Quand je disais en préambule de cette émission que c'est tellement important de connaître son histoire pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui et puis deviner, si je peux me permettre l'expression, ce qui va se produire ces prochaines années. Pas toujours très optimiste, Alain-Jacques Tornard, quand on fait des plans sur la comète.
Je ne suis pas le seul commentateur à avoir toujours dit que le démantèlement de l'Autriche-Hongrie tel qu'il s'était passé avait été une catastrophe pour l'Europe, parce qu'on a créé un vide.
Et le macartisme, est-ce qu'on en sent toujours les séquelles aujourd'hui?
Tout à fait.
On va en parler dans quelques instants, le macartisme qui naissait véritablement le 9 février 1950. Ça fait partie des événements que nous commémorons cette semaine sur Radio Fribourg dans C'est une autre 25.
C'est une autre histoire.
Nous sommes le 9 février 1950. Le sénateur Joseph McCarthy est en Virginie-Occidentale et il prononce un discours dans lequel il dénonce la présence de communistes au sein même du gouvernement américain. Un discours où il est question d'ennemis de l'intérieur et d'un réseau d'espionnage qui infeste le département d'État des États-Unis et façonne sa politique. S'en suivra une croisade contre des ennemis d'État souvent imaginaires, une véritable chasse aux sorcières qui conduira plusieurs élites à fuir l'Amérique, dont un certain Charlie Chaplin, Alain-Jacques Tornarin, qui a eu la bonne idée de venir s'établir en Suisse.
Oui, oui. Et d'ailleurs, c'était pas le seul à venir en Europe. Je pense toujours à Jules Dassin, dont le fils Joe Dassin, je m'en chanterai, vous saouler. L'Amérique, tout ça.
Il n'a même pas besoin de passer les extraits musicaux. Il sonorise lui-même cette émission, notre ami Alain-Jacques Tornard.
Alors, forcément, il ne s'y attendait pas, le pauvre McCarthy, parce qu'il avait été invité par les femmes républicaines à faire un discours. Et puis, il s'est dit, tiens, je vais axer sur ce thème-là. Là, parce que le gars est un peu curieux quand même. C'est un modeste sénateur.
D'abord démocrate.
Oui, il a été démocrate indépendant, républicain, roublard, bagarreur, buveur, joueur de poker.
Accro à la cocaïne aussi.
On peut dire beaucoup de choses. Il ressemblait pas à ce qu'il a dénoncé. Plutôt, il ressemblait par certains aspects. Et c'est là qu'on voit quand même que c'est un personnage assez curieux. Il a élevé des poulets, il est d'origine irlandaise. Ça n'a rien à voir, mais disons que le raccourci, sa culture le limite. Alors, c'est important, c'est sa culture politique qui est fort limitée. C'est un homme du centre, Middle West, vous savez, alors avec toutes les idées qui vont avec le peuple, la liberté, l'Amérique, l'entre-soi, quoi, le monde extérieur qui n'existe plus. Tout ça va nourrir beaucoup de choses imaginaires. Alors, il ne s'attendait pas, il a créé, à une époque où il n'y avait pas Internet, il a créé le buzz, instantanément.
Ça l'a vite dépassé, d'ailleurs.
Totalement. C'est un célèbre caricaturiste, d'ailleurs, R. Bullock, qui invente un mot qui va faire recette, le McCarthyisme. C'était dans l'air du temps. Si on veut, McCarthy, il a syncrétisé quelque chose qui était tout à fait dans ce moment-là de l'histoire. D'ailleurs,
rappelons-nous que nous sommes en pleine guerre froide dans ces années-là.
Exactement. En fait, il faut remonter déjà à 1946. Le président Truman met sur pied une commission temporaire chargée d'enquêter sur la loyauté des fonctionnaires fédéraux. Ce qui va entraîner d'ailleurs beaucoup de démissions parce qu'il suffisait de très peu pour être accusé de déloyauté. Entre 1947 à 1954, il y a quand même eu 1054 fonctionnaires révoqués. Pour cela, il ne fallait pas seulement être seulement communiste. Si on appartenait à des organisations subversives, si on ne croyait pas forcément en Dieu, ou bien on souffrait, comme on disait à l'époque, d'immoralité sexuelle, vous voyez ce que je veux dire, d'avoir recouru à la drogue. Alors vous voyez, justement, le McCarthy, pour ça, il était bien placé pour en parler. Certains se sont d'ailleurs abrités derrière le fameux 5e amendement, vous savez, qui vous permet de ne pas vous accuser vous-même, mais c'était perçu comme un signe de culpabilité. Alors en plus, on est à ce moment où éclate l'affaire Rosenberg, c'est-à-dire tout à coup on apprend que les plans de la bombe atomique ont été transmis à l'Union soviétique, ce qui est tout à fait exact. L'Union soviétique, forcément, avec Staline, avait pénétré l'appareil, ils avaient essayé de créer un vrai parti communiste pour déstabiliser les États-Unis. C'était la hantise des États-Unis d'être déstabilisé d'abord par les nazis et ensuite par les communistes.
Alors, là, visiblement, dans la croisade de McCarthy, on se trompe d'ennemis souvent. Hein.
Tout à fait. Parce qu'encore une fois, il suffit d'être un libéral. Mmh. Libéral, d'ailleurs, encore maintenant, quand vous dites aux États-Unis que c'est un libéral, ça veut dire un socialiste, et socialiste, ça veut dire un communiste.
Ouais. Et est-ce qu'il y a eu des dénonciations
Alors, quand on parle, bien sûr, ça n'est pas comparable à ce qui se passait au même moment en Union soviétique, où on assassinait les gens, on les exécutait, on les envoyait dans des goulags.
Ouais, j'évoquais la Stasi un peu plus tôt
matin. Exactement, attention, comparaison n'est pas raison. Hein. On n'est pas du tout dans les mêmes sphères, mais disons que c'était extrêmement pénible. Les gens ont été poussés, parfois même au suicide. Le monde du cinéma a été complètement bousculé. Même un Ronald Reagan avait participé à cet effort pour lutter contre le communisme au sein du cinéma. Mmh. Il suffisait d'avoir quelques revendications sociales, je veux dire, de vouloir protéger la veuve et l'orphelin.
Voilà, c'était le cas de Charlie Chaplin, qui même devenu immensément riche, était resté fidèle à ses origines très modestes. Et voilà, ça se voit dans tous ses films, dans les temps modernes, il défendait l'ouvrier avant
tout. Exactement. Alors, McCarthy se retrouve à la présidence d'un sous-comité sénatorial d'enquête permanent. Désormais, un fonctionnaire peut être soumis à une enquête policière et révoqué sur un simple soupçon de sympathie. Et comme je dis, le soupçon, ça pouvait porter sur...
Ça nous rappelle presque la terreur.
C'est un vrai climat de terreur. On le voit d'ailleurs au cinéma. Hein. Tout à coup, on donne plutôt dans les films pour ça qu'on donne dans des films de science-fiction, de fantastique, parce qu'on peut échapper à cette censure, parce qu'automatiquement, on est catalogué et je peux vous dire que ça vous ruine votre carrière pendant tout le restant de votre existence. Par exemple, si vous souhaitiez des réformes sociales, voilà, vous étiez tout de suite condamné. Le monde de la radio, je l'ai dit, le cinéma, naturellement, et ainsi de suite. Et ça n'a pas duré longtemps, théoriquement, hein, mais dans l'esprit, ça a pénétré profondément le cœur des Américains, l'esprit des Américains. La guerre froide, faut quand même pas l'oublier, a été pour les Américains un traumatisme profond. Et quand on les voit maintenant, de nos jours, réagir tellement violemment envers la Russie, vous vous rendez compte que, par exemple, le président ukrainien, les dirigeants ukrainiens ont dû dire, eux qui sont les premiers concernés par ce qui se passe par rapport à la menace russe, c'est eux qui ont dû tempérer en disant non, c'est pas aussi grave que le dit. Parce qu'on voit bien que dans l'esprit des Américains, la Russie, qui n'est plus du tout communiste, s'est à nouveau substituée cette volonté de vouloir en découdre par rapport à un monde qui est perçu extraordinairement comme menaçant, la Chine, respectivement la Chine et la Russie, perdurent, mais j'allais dire presque de manière irrationnel. C'est parce qu'on pense toujours que c'est le monde de l'économie qui domine tout. C'est quand le monde de l'économie domine, généralement on évite quand même de faire des guerres pour rien parce que c'est l'argent qui compte.
Et sinon, juste avant, vous évoquiez les origines de Joseph McCarthy, le Middle West, hein, cette Amérique très rurale. Ça me fait penser un peu à l'Amérique de Trump quand vous parlez de ça. Hein.
D'ailleurs, c'est là-dessus que j'allais.
Ah bah, je vous déroule le tapis rouge là.
Oui, parce que à la fois cette ces événements du McCarthyisme soulignent la solidité quand même de l'appareil, législatif américain, parce qu'à un moment donné, on a mis un terme à tous ces excès. Les démocrates sont revenus au pouvoir. Mais en même temps, cette étonnante fragilité, ces obsessions qu'incarne particulièrement bien, justement, Donald Trump, et qu'il incarne toujours. Et on peut facilement jouer sur ces peurs américaines qui sont presque, j'allais dire, des des craintes existentielles, parce qu'on a, quand c'est un pays qui a un problème de légitimité sur le plan historique, hein, quand même, c'est un pays qui s'est créé sur la destruction d'un autre peuple. Quand on parle de nos jours de grand remplacement, s'il y a eu un grand remplacement, c'est bien celui-là, avec l'Amérique. Donc elle souffre de son identité, elle souffre de ses origines, elle souffre de cette peur qu'elle a de l'extérieur, mais elle, par rapport à la Russie, n'a pas l'excuse d'être encerclée par des puissances perçues comme ennemies.
La naissance du macartisme, c'était en 9 février 1950, toujours dans la droite lignée des événements que nous commémorons cette semaine. Eh bien, évidemment, le traité de Maastricht, hein, qui était signé il y a 30 ans, jour du Fribourg.
C'est une autre histoire.
Avez-vous déjà pensé à regarder sur une carte où se trouve Maastricht ? Alors, avant de parler d'histoire, petite leçon de géographie. Nous sommes aux Pays-Bas, dans le sud du Limbourg, une province dont cette ville de 120 000 habitants est le chef-lieu. Nous sommes donc bien loin des grandes agglomérations néerlandaises que sont Amsterdam ou Rotterdam. Et c'est pourtant à Maastricht que le Conseil européen s'est réuni à plusieurs reprises. La première fois, c'était en 1981. Puis bien sûr, la date qui nous intéresse aujourd'hui, le 7 février 1992, pour la signature du traité sur l'Union européenne. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, quand on préparait cette émission, Alain-Jacques Tournard, on échange toujours beaucoup de courriels hein, quand on prépare notre matière chacun de notre côté. Vous, c'est surtout la création bancale de l'euro que vous aviez envie de signaler ce matin.
Hein. Oui, bon déjà, parler de Maastricht, pas pour rien, on aime bien les endroits hautement symboliques. On est aussi, d'un côté, il y a la Hollande, bien sûr, où ça se trouve, les Pays-Bas, la Belgique, il y a le Luxembourg et l'Allemagne, donc on est vraiment aux confins, là. C'est le seul endroit où d'ailleurs il y a les hauteurs aux Pays-Bas. C'est pas pour rien. Bien entendu que ce traité de Maastricht, c'est là qu'on voit qu'on... On est mal parti quand même. Hein. Bon, déjà on part à nouveau. Tout à l'heure on parlait de la double monarchie qui part sur une grosse défaite. Là on part sur un effondrement, l'effondrement du mur de Berlin en 89, la réunification allemande qui faisait très très peur aux autres Européens, en particulier aux Français. François Mitterrand disait à l'époque qu'il aime tellement l'Allemagne qu'il était très content qu'il y en ait deux. donc on voit bien qu'on peut pas empêcher l'Allemagne de se réunifier naturellement, donc on le laisse. Mais en échange, il y a une contrepartie. Le sacrifice du Deutsche Mark sur l'autel de l'Union monétaire européenne. Et donc, c'est le projet de monnaie unique qui naît à ce moment-là. Et pour le concrétiser, il faut réunifier l'Europe autour d'un nouveau traité. Le traité de Rome date de 1957, mais c'est un traité plus ou moins quand même économique. Et donc, il faut faire une véritable politique de coordination entre les pays membres, le contrôle des frontières, la lutte contre les différents trafics, le droit d'asile, la gestion des flux migratoires. Donc tout ça doit être revu et corrigé. Et des voix, d'ailleurs, dénoncent le fait que l'Union européenne se concentre encore à nouveau, sur le domaine économique, alors que la guerre, d'ailleurs, faisait rage en Bosnie-Herzégovine au même moment. Il ne faut pas l'oublier. En Bosnie-Herzégovine, on revient d'ailleurs à notre précédente séquence.
L'Autriche-Hongrie.
Toujours la même chose, hein, on paye toujours les séquelles. Ces oppositions se renforcent lorsque le Danemark refuse par référendum d'adhérer, hein, tout simplement. Donc, un climat de défiance, on n'ose pas faire voter les Européens dessus. Mitterrand est contraint de faire voter les Français parce qu'il y a une telle résistance qu'on ne peut pas faire autrement. Comme on dit, il gagne à la raclette, ce qui fait qu'on a vraiment très très peur. On retrouvera d'ailleurs le même problème avec la Constitution européenne, on devra contourner le vote populaire. Donc tout ça, il manque de légitimité à la base. Et on aboutit, 10 ans plus tard, à la création de l'euro. Alors pour nous, l'euro, c'est le 1er janvier 2002. En fait, c'est 1999 où on en crée une véritable monnaie. Et la monnaie reste officiellement comme ça, mais ça sera définitivement supprimé en 2002. Mais il y a beaucoup de ressentiments qui se nouent à ce moment-là, parce que on crée une monnaie unique européenne. En fait... pas tous les Européens y adhèrent, hein, faut quand même pas l'oublier. D'ailleurs,
c'est le début, la Grande-Bretagne n'y adhère pas, par exemple.
Exactement, d'autres pays s'y refusent, tandis que d'autres viennent se greffer artificiellement, la Macédoine, par exemple. Bon, je dis, bah, tiens, on va prendre l'euro, alors qu'on leur a pas demandé s'ils voulaient rentrer dans l'euro. Il y a des pays qui sont trop fragiles pour y adhérer. C'est le cas, naturellement, de la Grèce, qui va payer, alors cash est très fort.
On va faire une fois une émission sur la Grèce, hein. Ça fait très longtemps qu'on a plus parlé de la Grèce.
Moi, je suis tout à fait volontaire, parce que c'est un un pays qui a beaucoup souffert, que j'aime beaucoup, et qui a, le but final, cette coordination des politiques économiques européennes, entraîne une véritable, quand même, une catastrophe, parce qu'on crée une banque centrale totalement indépendante, parce que les Allemands ont très peur de cela, et avec des résultats qui sont l'étranglement de pas mal de sociétés. Certains économistes responsables politiques regrettent qu'on ait écarté d'emblée une solution médiane qui avait l'avantage de ménager une intégration.
C'était l'écu dont on parlait au tout début.
Au tout début. Mais alors ça, c'est le nom.
Ça aurait été une monnaie commune, mais pas unique,
Voilà, exactement. C'était une monnaie commune. C'est-à-dire qu'elle respectait la diversité des économies et des sociétés. Elle venait en complément des devises nationales et elle aurait servi aux échanges de l'Europe avec le reste du monde. Tandis qu'à l'intérieur de la communauté européenne, on aurait conservé ces différentes monnaies qui permet d'équilibrer le tout. Mais ça ne s'est pas fait.
Ça ne s'est pas fait. Des regrets, Alain-Jacques Tournard. La Suisse ne fasse pas partie de l'Europe, ou vous trouvez que c'est une bonne chose? Moi, je connais beaucoup de gens, dont moi, qui à l'époque étaient des europhiles convaincus, qui avaient ragé quand nos concitoyens avaient refusé. Et puis aujourd'hui, je me dis, finalement, on n'est pas si mal.
Mais moi, je regrette surtout que l'Europe ne fasse pas partie de la Suisse.
On va penser que notre armée, la meilleure armée du monde, pourrait partir à l'assaut de nos voisins, Alain-Jacques Tornard.
Comment on l'a vu défiler
avec vous comme commandant de nos troupes.
Comment on l'a vu défiler le 14 juillet 2020 sur les Champs-Élysées, j'ai quelques doutes.
Alain-Jacques Tornard, chaque mardi, on vous raconte une autre histoire. On s'intéresse aux événements que l'on commémore cette semaine. On va faire quelques petites recherches historiques et puis une autre histoire qui va être racontée à nos auditeurs la semaine prochaine, Alain-Jacques Tornard.
Je me réjouis déjà.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
La bonne nouvelle du jour.
Et bonne nouvelle, après de nombreuses applications de rencontres diverses et variées pour célibataires, en voici une nouvelle basée sur vos goûts musicaux.
Ah ah.
Elle s'appelle Louise, l'application. Elle a été créée en France par un Nantais. Elle vise à connecter entre eux les amateurs de musique, les mélomanes, selon leur goût.
Donc voilà, même si ton caractère ne correspond pas, voilà. Si tu aimes la même musique, t'as déjà plus de chances en fait de rencontrer une personne.
Bah voilà déjà un point commun finalement. Ouais. Après avoir pour
on ne se serait
reste.
Jamais rencontré par cette application.
Toi et moi.
Oui.
Je sais pas, on a.
Non, parce que si tu mets des j'aime sur Herbert Léonard, Pierre Bachelet, Dany Briand ou que sais-je.
C'est vrai.
Moi, je pense pas que j'aurais eu les mêmes résultats.
Non, effectivement, on se serait jamais croisés.
Ouais.
Ça aurait été dommage.
Ça aurait été dommage.
Bon, alors, le principe est relativement simple. Vous choisissez les styles musicaux, pas les artistes, les styles.
Ah, les styles, d'accord.
Que vous aimez.
Moi, j'avais compris qu'il fallait vraiment dire, ah tiens, ce titre j'aime, celle-là j'aime pas, et puis.
Alors après, ça va plus loin.
Ouais,
après, ça peut être affiné. Mais d'abord, tu choisis les styles musicaux que tu aimes, et tu es mis en relation un peu à la manière de Tinder, qui est une autre application pour célibataires, hein, où tu reçois les photos des gens, et puis tu zappes si tu aimes ou tu n'aimes pas. Donc, tu es mis en connexion avec des personnes qui apprécient les mêmes genres que toi. Mais l'application va plus loin. Louise te propose aussi d'écouter simultanément des musiques que tu serais susceptible d'aimer avec une inconnue dans le monde. Donc voilà, si tout à coup les deux profils ont des connivences par rapport aux goûts musicaux, eh bien tu peux savoir que tu écoutes la même musique que l'autre personne qui est connectée en même temps que toi. Et ça c'est assez beau pour tomber amoureux, tu vois.
Je vois bien, mais je veux pas être pessimiste. Hein. Prenons un cas concret. J'ai une amie qui a des goûts musicaux un peu de vieille, malgré ça, elle est assez jeune. Elle risque quand même de tomber sur pas mal de vieux en MS,
mais
finalement.
Mais non, parce qu'il y a plein de jeunes qui aiment bien.
Herbert Léonard? Non, je
Pierre
crois
Bachelet.
Pas tellement.
Ou la musique française. C'est sûr. Il y en a qui nous écoutent et qui se disent, oui, c'est vrai, elle a raison.
Donc, non, mais ça, j'en doute pas, mais tu sais, il y a statistiquement plus de chances quand même que tu termines dans un rendez-vous galant au sorbier, aux trois glands.
Mais s'il est riche et qu'il a un pied dans le cercueil, c'est pas grave.
Ah, voilà.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé trouvez ça.
OVO présente Café Complet.
Salut Jeanine.
Eh hey Bernard, salut.
Eh hey, tranquille, t'as vu? Carnaval de Rio, c'est le truc des boules, ça va y aller.
Ben ouais, j'ai vu dans La Liberté qu'il y avait une grande fête là avec le Carnaval des Boultis, hein?
Ouais, c'est tranquille, bon, c'est un peu long le voyage, mais c'est pas grave, jusqu'en Boulti du Sud. Il y a un sacré bout, hein?
Ouais, faut prendre l'avion même, hein?
Allez, c'est parti! Ben nous voilà, hein, tranquille! Mais dis donc, on fait une chaffe dans cette basse ville! Là là!
C'est incroyable,
Hey, attends, mais tout le temps que c'est chaleux! Eh, viens voir, maman! Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un petit peu aussi d'aller guguer le rababou.
Ben oui!
Ouais.
Vous connaissez pas par hasard Hubert Audria? On le cherche.
Oh, ouais. Lui, il connaît. Il joue à football,
Il connaît le rababou, monsieur Audria. Vous avez pas eu vu par hasard?
Audria. Voiture nouvelle. Ok.